Interview.
1/3 d'Ivoire pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Clémence Lataste. Bonjour.
Bonjour.
Tu es ici pour nous parler d'une conférence qui se déroulera à l'espace Barral à Die, qui aura lieu donc vendredi 16 septembre 2022, pour une rentrée en quelque sorte. Oui. Et ça commencera à 17h45.
Hein. C'est ça.
Voilà. Et donc, ça permettra de découvrir les bases de la communication non violente de manière ludique. Pour ça, vous proposerez un petit protocole qui sera préparé pour cette occasion. Clémence Lataste, donc, vous êtes ici depuis quelques années dans le Diwa.
Oui.
Vous vous étiez présentée justement sur cet aspect de la communication non violente. Qu'en est-il aujourd'hui de cet aspect de la communication non violente ?
Alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que ça évolue en fonction du temps et de comment moi je le vis et comment j'intègre aussi. Parce que c'est pour moi un processus et vraiment une pratique. Souvent, on peut associer la CNV avec un outil de communication. En fait, c'est bien plus que ça. C'est vraiment une posture dans laquelle on se met déjà dans la relation avec soi et dans la relation avec les autres. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de très large qui demande de la pratique et qui s'intègre avec les années, en effet. Voilà, et donc là, depuis cette année 2022, je suis formatrice certifiée, du coup, en communication non violente. Et je la transmets déjà depuis 8 ans à peu près. Mais voilà, ce parcours, en fait, et toute cette intégration fait qu'en effet, il y a des petites subtilités qui s'intègrent au fur et à mesure.
Et il y a cet aspect donc de la communication non violente. D'ailleurs, vous avez agi au sein d'entreprises ou de structures associatives également.
Oui.
Est-ce que pour vous, c'est une école aussi ?
Oui, c'est sûr, parce que ça permet de se rendre compte de la réalité de chaque domaine. Et c'est clair que les réalités sont différentes et qu'on va transmettre du coup la CNV différemment en fonction de si on est en entreprise, si on est dans une association, si on est face à des parents, face à des personnes tout public. Les approches sont différentes. Mais ce que j'aime particulièrement dans ce processus, c'est qu'en fait, c'est justement très transversal parce que ça touche à l'humain. Et l'humain, il est partout, au-delà de nos casquettes, de nos rôles, de nos postes. Et donc, c'est ça que j'aime transmettre aussi dans les entreprises, c'est l'aspect vraiment humain et de pouvoir ramener en fait chaque personne sur un même plan d'égalité, sur le fait que ils vont relationner de personne à personne et pas que sur un plan hiérarchique par exemple. Donc moi c'est ça que j'aime dans les entreprises et que je vois qui est aussi de plus en plus connu et ouvert. Là récemment je suis intervenue pour l'Auditorium Orchestre National de Lyon et j'étais agréablement surprise de voir à quel point c'était connu, enfin c'est pas quelque chose d'inconnu, il y a quelques années encore c'était peu connu la CNV, voire il y avait beaucoup d'a priori et aujourd'hui je vois que ça s'ouvre vraiment et que les personnes sont intéressées dans cette intention-là justement de mieux se comprendre, mieux se connaître, arriver à mieux s'exprimer, se comprendre les uns les autres. Et ça, ça a beaucoup évolué.
Justement, sur cette communication non violente, est-ce qu'on peut en donner un peu l'historique ?
Alors l'historique, donc la CNV ça a été modélisé j'ai envie de dire parce que ça n'a pas été créé de toutes pièces. C'est Marshall Rosenberg qui était donc un psychologue aux États-Unis, psychologue clinicien qui a modélisé la CNV au sens où il s'est inspiré de beaucoup d'approches et notamment l'approche de Carl Rogers qui était aussi psychologue et qui travaille vraiment sur l'approche centrée sur la personne. Donc c'était à l'époque assez révolutionnaire et il s'est beaucoup inspiré de cette approche-là qui dit que la personne a ses propres ressources et que le psychologue n'est pas là pour venir diagnostiquer ou guérir, mais accompagner la personne à trouver ses ressources. Donc lui étant psychologue, Marshall Rosenberg, il s'est beaucoup inspiré de ça et ensuite il a voulu vraiment développer cette méthode dans l'intention de la diffuser plus largement et pas d'en rester à la sphère psychologie et vraiment de pouvoir en faire une démarche qui soutienne globalement un changement social. Il était vraiment dans cette intention d'aller vers un changement social pour que les personnes arrivent à relationner de manière plus paisible entre elles. Et vraiment, lui, il était beaucoup impliqué dans les conflits, notamment israélo-palestiniens, par exemple. Il était juif. Et donc, voilà, il a beaucoup œuvré aussi en Afrique, voilà, dans plein de pays qui étaient en guerre. Et il a beaucoup soutenu des communautés à essayer de se parler, de se rencontrer au-delà de leurs a priori. Voilà.
On peut situer un peu l'époque, justement, de ce mouvement.
Donc, ça a démarré, il a commencé à développer cette démarche dans les années 60-70. Voilà, il est mort en 2015. Donc, après lui, voilà, y a plein de personnes qui ont pris la suite. Et c'est un mouvement international. Voilà.
L'intitulé de cette conférence de ce vendredi 16, ce sera « Et si ton jugement était un cadeau ?» Voilà, la question est posée. Pourquoi cette proposition ?
Alors, c'est en ça que j'aime bien amener la CNV d'une manière un peu surprenante. Et c'est en ça que je dis que pour moi, c'est une approche ludique que je vais proposer là, dans cette conférence. C'est que j'aime inviter les personnes à voir que, en fait, derrière un jugement, que ce soit un jugement que moi j'aimais envers quelqu'un ou que je reçoive de quelqu'un, il y a toujours quelque chose d'autre, en fait. De se dire que le jugement, c'est pas la fin de la discussion, c'est presque même le début, au sens où on va pouvoir se dire, bon, bah, qu'est-ce que ça dit de la personne qui aimait ce jugement ? Et de voir à quel point, en fait, derrière un jugement, il y a quelque chose d'assez précieux, alors qu'on voit pas du tout, a priori, hein, c'est comme un cadeau mal emballé. Mais au sens où si la personne, elle est prête à dialoguer, imaginons quelqu'un me dit t'es vraiment égoïste, je sais pas, dans mon couple mon compagnon me dit t'es égoïste, et ben en fait je peux l'envisager sous plusieurs aspects. Je peux me dire comment ça il dit que je suis égoïste, de quoi il parle, et puis après je vais essayer de potentiellement de lui prouver que je suis pas égoïste, ou de lui dire que lui aussi il a des défauts et dire oui mais toi t'es comme ci, t'es comme ça. Donc ça, c'est un peu la manière habituelle de fonctionner, c'est qu'on va prendre pour soi un message et croire que c'est la réalité. Et ce que propose la CNV, c'est d'essayer d'aller au-delà de ça et de se demander, alors bien sûr, on ne va pas le faire dans un premier temps. Hein. Dans un premier temps, on va réagir comme on a l'habitude de réagir. Et moi, après 9 ans de CNV, je réagis toujours de la même manière, c'est-à-dire que je le prends pour moi. Et puis, dans un deuxième temps, je me dis, attends, il y a quoi derrière ce message-là ? Si j'en ai l'envie, bien sûr, parce que ce n'est pas un dogme qui dit « il faut absolument aller au-delà du jugement », mais c'est de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux en faire ? Parce que la plupart du temps, on se dit, mais quand quelqu'un communique avec moi d'une manière désagréable, donc par des reproches, des jugements, des exigences, des menaces, etc., souvent on se dit, j'ai pas le choix, en fait. Je suis tributaire de comment l'autre s'adresse à moi. Et ce que propose la CNV, c'est d'essayer de reprendre son pouvoir à un endroit et de se dire, dans quelle mesure je peux voir comment je reçois ce message, en fait. Et donc, l'intention, c'est d'aller explorer qu'est-ce qu'il y a derrière un jugement et d'essayer de se demander qu'est-ce que l'autre veut dire vraiment, au fond. Parce qu'en fait, on part du postulat qu'un jugement, c'est juste une manière d'exprimer maladroitement quelque chose qui est important pour nous. Donc, si je reviens à l'exemple de mon compagnon, s'il me dit « t'es égoïste », en fait, je vais essayer de me demander... Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait ? Qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Et donc, essayer de voir, est-ce qu'en fait, quand tu me dis ça, c'est que t'aimerais passer plus de temps avec moi, en fait ? Et de se rendre compte que derrière ça, il n'y a pas, en fait, de message fondamentalement malveillant, mais qu'en fait, c'est une manière maladroite qu'on a, nous les humains, on a appris à exprimer nos émotions et nos besoins par des jugements, des reproches, des critiques. Donc l'intention, c'est ça, dans la conférence, c'est d'essayer d'aller voir derrière et de, par des mises en situation et des petits dialogues avec le public et avec des gens qui auront envie de se proposer, je vais les inviter à explorer, en fait, ce qu'il y a derrière un jugement et voir en quoi ça peut éventuellement être un cadeau. Ça ne veut pas dire que ça l'est, hein, dans tous les cas, mais si la personne en face, elle a envie qu'on soit en lien, parce que c'est l'intention première de ce processus, c'est dire si on se met dans cette intention-là, ça veut dire que autant moi que l'autre, on a envie de dialoguer. Bien sûr que c'est pas magique, c'est pas une baguette magique, la CNV, ça va pas résoudre tous les conflits, mais ça va potentiellement permettre de transformer un conflit destructeur en conflit constructif. Voilà, c'est ça l'intention pour moi de cette conférence, c'est d'essayer d'aller voir au-delà du jugement.
L'importance de cette démarche aussi, c'est le cadre dans lequel se situe cette confrontation, hein, de jugement et de réception. Est-ce que, justement, il y a une importance de ce cadre où ça se situe ?
C'est sûr que dans un contexte, par exemple, professionnel, ça va prendre plus de temps. Ça va demander que la confiance, elle se crée. Ça va demander qu'on se sente l'un et l'autre en confiance pour pouvoir s'exprimer honnêtement. Donc c'est clair que c'est pas, on va dire, c'est pas la même temporalité, j'ai envie de dire, en fonction des contextes dans lesquels on est. Et après, il y a des contextes professionnels où les gens sont très en confiance les uns avec les autres, et alors il y a aucun problème pour aller dans, on va dire, dans ce genre de dialogue. Par contre, des contextes où il y a déjà des conflits et où c'est assez tendu, bah ça va demander du temps pour que chacun se sente en confiance de pouvoir honnêtement dire ce qu'il vit et ce qui se passe, quoi. Parce que c'est clair que c'est pas une habitude de se montrer, quoi, et d'oser montrer ce qui est important pour soi, ce qu'on ressent et ce qu'on vit dans une situation. Donc c'est clair que c'est pas la même manière d'aborder la situation en fonction des contextes.
Ce rendez-vous conférence CNV, il y aura une alternance entre théorie et pratique proposée. Et dans ce processus, il y a ce rappel sur chacal et girafe. Alors, quel est-il ce processus?
Oui, alors pour revenir à la théorie pratique, j'ai vraiment l'intention, et donc cette conférence je l'ai déjà donnée par exemple notamment aux rencontres de l'écologie ou à l'usine vivante, mon intention elle est vraiment de ne pas faire une conférence seulement théorique, mais d'inviter les personnes à participer, à proposer leur situation, à ce qu'on on voit ensemble comment on peut creuser des questions à partir de situations vécues concrètes, et puis à la fin je propose aussi d'expérimenter un petit exercice à la fin, en binôme, pour pouvoir essayer de tenter d'appliquer ce que j'ai transmis dans cette intro. Et chacal et girafe. Alors en fait, le chacal et la girafe, c'est juste deux images, alors qui peuvent paraître un peu enfantines, mais l'intention de Marshall quand il a créé ces deux images, c'était vraiment de pouvoir mettre de la conscience sur nos postures quand on va être en relation. Alors ça part déjà de la relation avec soi-même, mais du coup, bien évidemment, ça a une conséquence dans la relation avec l'autre, parce qu'en fonction de comment on va être avec soi-même, ça a souvent un impact dans comment on va être avec l'autre. Je vous donne un exemple sur quelque chose de très basique ou futile, mais du quotidien, je fais la vaisselle, je casse un verre. Je peux avoir le réflexe de me taper dessus intérieurement et de me dire non mais qu'est-ce que t'as encore fait, ah mais t'es vraiment maladroite, en plus c'était un verre que j'aimais bien, enfin ça c'est la voix intérieure qui me parle et qui dit j'ai pas le temps, en plus qu'est-ce que tu crois, j'ai pas le temps de ramasser tes conneries. Donc on peut avoir cette voix, et quand on s'en rend compte, l'intention c'est de mettre de la conscience dessus pour se rendre compte de quelle manière on se parle déjà à soi, et donc c'est ça qu'on appelle, on va dire, la posture chacal. C'est cette manière-là qu'on a de communiquer qui est basée sur les reproches, les critiques, les menaces, les exigences, enfin, voilà, tout ce qui est assez désagréable, mais dont on ne se rend pas compte. Entre parenthèses, on remarque aussi que quand on a cette manière-là de se parler à soi en premier, c'est souvent la manière de laquelle, par exemple, on va parler à nos enfants. Quand mon enfant casse un verre, je vais réagir de la même manière, on va dire spontanément, en lui disant « Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh là là, mais non, t'es maladroit, etc. » Et donc, on va aller critiquer l'autre, juger l'autre sur ce qu'il fait ou se juger soi. Et l'autre posture qu'on appelle la posture girafe, c'est en fait d'arriver à, une fois que ça s'est passé, parce qu'en fait, l'intention, c'est de montrer que le chacal, c'est ni bien ni mal, c'est juste un réflexe qu'on a dans une société où on nous a transmis ça. On nous a transmis des jugements, des évaluations, t'es ceci, t'es cela, t'es comme ci, t'es comme ça, tu devrais être plus ça. Donc juste, on a intégré ça et donc on le reproduit. L'intention dans la CNV, c'est essayer de s'entraîner à une autre posture qui va être de pouvoir prendre du recul et de se dire « Ah ok, en fait, là, pourquoi ça me fait réagir, en fait, cette situation ? Qu'est-ce que ça impacte chez moi ?» Et notamment, voilà, si on prend l'exemple du verre, c'est par exemple parce que j'étais pressée, donc ça me stresse d'avoir un truc en plus à faire, et du coup, ça vient activer le chacal qui réagit. Mais au fond, ce que ça dit de moi, c'est juste j'ai pas le temps, je suis stressée, en plus c'est un verre que j'aimais bien, je suis deg d'avoir cassé ce verre. En fait, ça dit ça. Mais notre réflexe, c'est de le dire d'une autre manière. Et donc, le problème, entre guillemets, c'est de voir que le mode chacal, il a des conséquences. C'est pas bien ou mal en soi, c'est juste les conséquences que ça a déjà sur moi, par exemple sur ma propre confiance en moi, estime de moi. Si je passe ma vie à me juger et à me taper dessus intérieurement, l'impact sur moi, c'est que ça crée de la honte, de la culpabilité, de la déprime, voire de la dépression. Et l'impact dans la relation, c'est que ça va créer de la tension. Et que l'autre va vouloir réagir de cette même manière. Et ça, c'est ce qu'on connaît habituellement dans les conflits, dans les tensions. Donc c'est juste en fait prendre conscience des conséquences et pouvoir choisir de faire autrement. Mais pour faire autrement, déjà d'une, il faut en avoir conscience de comment on fonctionne. Et deuxièmement, il faut avoir une autre manière de faire. Donc l'intention de la CNV, c'est d'apprendre cette autre manière de faire. Donc par ce qu'on appelle cette posture girafe, qui est d'arriver à rapidement traduire le chacal en quelque sorte et de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Donc autant le sien intérieurement, son chacal, que le chacal de l'autre. Et donc cette posture girafe, c'est cette posture d'écoute de soi, de ses émotions, de pourquoi ça nous fait réagir, de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, et voilà, de reprendre d'une certaine manière son pouvoir et d'arrêter de mettre la responsabilité de nos émotions sur l'autre ou de se taper dessus. Voilà, en gros.
Ce rendez-vous serait limité au niveau de l'accueil?
Au niveau du nombre, c'est assez peu limité, mais il y a quand même des places limitées du fait de la salle. Mais je pense que la salle, elle peut accueillir jusqu'à 25 personnes, donc c'est assez large.
Voilà, je voulais en venir par rapport à cette pratique. Comment se déroulera-t-elle avec le public?
La conférence?
Oui, avec cette alternance entre théorie et pratique.
Il y aura une première partie qui sera vraiment plus moi qui vais transmettre des choses ou proposer des choses. Après, je vais inviter des personnes du public à venir me rejoindre s'ils ont envie d'expérimenter avec moi. Et puis, dans un deuxième temps, à la fin, je proposerai aux personnes de se mettre en binôme dans la salle et de se répartir. Et puis, je les inviterai à faire une petite pratique, un échange, en fait, sur une situation concrète vécue, qu'ils auront choisi.
Cette conférence est en quelque sorte aussi un préambule à des ateliers à venir. On peut en parler rapidement aussi.
Oui, tout à fait. Donc, je vais donner plusieurs cycles de modules. Donc, en fait, les bases de la CNV, elles se transmettent en 3 modules de 2 jours. Donc, c'est sur des week-ends. Et là, je vais proposer donc, Adi à l'automne, début octobre, fin octobre et fin novembre, 3 modules, qui sont donc modules 1, 2 et 3, qui permettent d'avoir les bases de la communication non-violente et du coup d'approfondir. Ce que je vais transmettre dans la conférence, ça sera vraiment un premier aperçu. Mais en fait, la CNV étant, comme je disais au départ, une posture, une pratique, une démarche, ça demande de la pratique et ça peut être assez étonnant de se dire que le minimum, c'est 6 jours pour la CNV, mais c'est vraiment... je dirais comme un art martial ou comme quelque chose, une pratique vraiment qui demande du temps pour intégrer. Donc on transmet ces bases en 6 jours et je vais aussi proposer une autre série de 3 modules aux Amanins début 2023. Voilà.
Ça sera peut-être l'occasion de revenir en parler. À qui s'adressent justement ces ateliers?
À tout le monde. C'est vraiment ouvert à tout public, alors aux adultes, mais vraiment les personnes viennent de différents horizons. Les personnes viennent parfois pour leur envie personnelle, par exemple dans leur couple, d'arriver à pouvoir mieux communiquer, pour elles-mêmes, pour se connaître, pour prendre un temps pour elles. C'est vraiment aussi un moment où on prend du temps pour soi, pour se poser en fait, pour essayer de comprendre certaines choses. C'est aussi un temps où on prend du temps pour être en lien les uns avec les autres et pour moi, l'intention, c'est vraiment de retrouver ce plaisir du lien et cette simplicité du lien. Donc, c'est des week-ends où voilà, on prend le temps et on se détend aussi, quoi. Donc, l'intention, elle est aussi celle-là. Souvent, les gens viennent aussi pour... J'ai par exemple des parents qui viennent en me disant « Ah, je me prends enfin un week-end pour moi. » Et c'est une occasion d'approfondir une thématique qui les intéresse. Et les gens viennent aussi parfois... en même temps pour acquérir aussi quelques clés dans le domaine professionnel, surtout des personnes qui ont des métiers relationnels, notamment des enseignants dans le médico-social ou voilà ce genre de métiers.
Quelle est la demande assez récurrente des personnes qui viennent à vous et dans quel domaine vous les aidez?
Je dirais que dans les stages tout public comme ceux-là, c'est quand même principalement le domaine familial, donc relations parents-enfants, relations aux conjoints, aux coparents, relations de couple et aussi relations professionnelles s'il y a des personnes pour qui ils vivent quelque chose de compliqué dans le domaine professionnel. Et c'est en fait, dans ces stages, les personnes elles vont choisir des situations, on va toujours se baser vraiment sur leur vécu. C'est pas du tout théorique, on fait très peu de théorie, beaucoup de pratiques, beaucoup de sensitifs pour sentir aussi, pour apprendre à ressentir. Et donc je les invite à chaque fois à choisir leur propre situation. Donc après, les personnes, elles vont choisir en fait en fonction de ce qui les occupe en ce moment ou de ce qui est le plus présent pour eux dans leur vie, quoi. Ou des fois, c'est aussi des questionnements sur, je ne sais pas, prendre certaines décisions professionnelles, personnelles. Est-ce que je déménage? Est-ce que je prends ce travail? Est-ce que je change de travail? Est-ce que je me reconvertis? Enfin voilà, toutes ces questions-là, en fait, elles sont bienvenues dans les stages parce que c'est une manière de clarifier ce qu'on veut voilà, dans notre vie.
Vos actions s'opèrent avec un public ou aussi en individuel?
Alors oui, ça peut être en individuel. Donc moi, je ne suis pas formée en tant qu'accompagnante, mais du coup, dans ma formation de formatrice, il y a forcément des compétences d'accompagnement qu'on doit avoir. Donc je peux éventuellement proposer des accompagnements ponctuels pour les personnes qui ont besoin, après un stage par exemple, d'approfondir une question ou un sujet. Par contre, moi, je n'accompagne pas sur le long terme, et il y a des collègues qui sont formés aussi avec la CNV pour spécifiquement l'accompagnement individuel, et donc notamment des gens aussi sur le territoire là, qui font ça et qui peuvent du coup accompagner de manière plus pérenne.
Vous êtes diplômée de sciences politiques hein, de Toulouse.
Oui.
En quoi c'est ce que vous pratiquez est en est la continuité?
Je me suis longtemps posé la question. Parce que je ne voyais pas forcément le lien entre mes études et ce que je fais aujourd'hui. Mais je pense que vraiment, ça m'a permis d'avoir un aperçu de la société. En fait, ces études de sciences politiques, c'est vraiment on brasse assez large et on essaye de comprendre la situation globale, politique, juridique, économique de la société, sociale surtout aussi. Et donc moi, ça m'a amené, on va dire, une vision qui m'a donné envie de contribuer à cet endroit-là au niveau des relations, parce que j'avais vraiment l'impression que il n'y avait pas grand-chose, en fait. Même dans ma formation en sciences politiques, on est censé faire des métiers où on va globalement encadrer des équipes, donc être dans la relation humaine. Et il y avait, j'ai envie de dire, presque zéro cours sur la relation humaine. Donc ça m'a assez interpellée. Et de par certaines rencontres, du coup, après, je suis allée dans tout ce domaine au niveau relationnel, émotionnel, et après avec la CNV, parce que je vois que c'est vraiment quelque chose qui c'est vraiment un domaine qui n'est pas assez connu, alors qu'il est de plus en plus hein, quand même, mais où en fait, il y a beaucoup d'enjeux parce que tout est basé sur les relations, nos relations professionnelles. Donc, quand les relations professionnelles ne fonctionnent pas, en général, on galère dans le comment on fait les choses et ce qu'on fait et le résultat. Et donc, si on veut parler d'un terme économique dans la productivité, ça a clairement un impact en fait. On ne peut pas faire ensemble, créer ensemble s'il y a des tensions. Et donc pour moi, ça a été une évidence que c'est à cet endroit-là que j'avais envie d'amener quelque chose, parce que je ne voyais pas le sens en fait de faire des choses ensemble si on n'arrivait pas à être en relation.
Ce constat demeure toujours aujourd'hui?
J'ai moins, je dirais... Oui, enfin, j'ai plus cette vision sciences politiques, mais en tout cas la vision de ces années de pratique de formatrice et de transmettre la CNV, oui, c'est clairement un axe majeur en fait dans le fonctionnement des projets, dans le fonctionnement de tout ce qu'on entreprend du moment que c'est en relation, et comme on est des êtres relationnels, c'est notre base. Et donc en effet, je vois que c'est souvent le nœud, en fait. Et que si les projets ou si les équipes ne fonctionnent pas, c'est souvent la majorité du temps à cause de problèmes relationnels. Donc, en effet, pour moi, c'est là où ça a du sens de transmettre ça.
Certains pressentent une montée de violence dans ce qui nous entoure au quotidien et peut-être même dans l'actualité. Est-ce que pour toi, est-ce que c'est aussi la conséquence justement de cette lacune, de cette éducation à la relation humaine? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire?
Pour moi, le lien que je vois dans la potentielle montée de violence et la lacune, c'est une incompétence, parce qu'on nous l'a pas transmis, à exprimer ce qu'on ressent. Et pour moi, la violence, elle vient du stress, en fait, de la peur, en général, qui s'exprime par la violence, parce que c'est comme ça qu'on a appris à exprimer la plupart de nos émotions quand elles sont intenses. Et je pense que du coup, on n'a pas non plus appris à coopérer et à faire ensemble. On a appris la compétition, et donc ben, du coup, quand on est en compétition, forcément, il y a une forme de tension, de conflit, de violence, de qui gagne, en fait, puisqu'il y a forcément un perdant dans cette vision-là. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on entend par le paradigme chacal, c'est ce paradigme de la compétition, et où il y a un gagnant, un perdant. Et en effet, pour moi, on est dans une société qui ne nous apprend pas et qui commence à nous apprendre de plus en plus, mais à comment on fait pour qu'il n'y ait pas... une intention qui a un perdant, en fait, et d'essayer de trouver une manière de faire pour coopérer, trouver un équilibre. Et je pense que ça, en effet, on ne sait pas faire. Ce n'est pas du tout dans notre culture. Et donc, ça demande beaucoup de temps pour intégrer profondément quoi, ces valeurs-là.
C'est une société de compétition qui amène donc cet aspect-là.
Oui, pour moi, oui. Je pense que la compétition, c'est quand même la base de pas mal de tensions et de violences dans notre société, dans le monde en général, ouais.
À côté de ça, il y a Équivalence Créative, c'est un site spécifique à certaines personnes, dont toi, Clémence, avec aussi Jeanne Chapeau et Isabelle Estevez. Qu'est-ce qui s'y pratique sur ce site ?
Alors ce site, c'est la volonté de rassembler nos compétences avec ces deux collègues, Isabelle et Jeanne, avec qui j'ai travaillé quand j'habitais dans le sud-ouest il y a à peu près 7 ans maintenant, je pense. Et donc on a en commun en fait cette inspiration autour de la CNV donc on a mis en commun nos compétences, sachant que du coup sur ce site, c'est un catalogue en fait de ce qu'on propose les unes les autres. Donc il y a autant des formations autour de la communication interpersonnelle que de la médiation. Donc Jeanne, elle est plus spécialisée dans la médiation, dans les cercles restauratifs aussi. Donc ça, c'est deux manières de pouvoir traverser les conflits, on va dire. C'est pas gérer ni prévenir, mais quand il y a un conflit, puisque c'est normal, en fait, en quelque sorte, les tensions, les désaccords, comment on fait ? Donc la CNV apporte des outils pour ça, de comment vivre le conflit et non pas comment l'éviter. Et se dire que le conflit fait complètement partie en fait de notre vie et que c'est même plutôt bénéfique puisque c'est l'expression de nos individualités au sens de qui on est, de nos valeurs en fait. Donc l'intention, c'est vraiment comment on accompagne le conflit, et donc la médiation et les cercles restauratifs sont une manière d'accompagner le conflit, soit en médiation, c'est-à-dire avec 2, 3, 4, 5 personnes, et les cercles restauratifs, c'est quand il y a vraiment plus de monde. Voilà, donc Jeanne, elle est plutôt là-dessus, et Isabelle, c'est donc une formatrice qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a beaucoup formée aussi, et qui, elle, intervient dans le Sud-Ouest sur tous ces aspects-là, autant accompagnement que médiation et formation.
La CNV, au niveau national, il y a eu un certain rayonnement de cette activité ?
Oui, on est regroupés, les formateurs certifiés, on est regroupés sous un site qui s'appelle cnvformation.fr, et donc où on a... On partage en fait toutes les propositions de formation, de conférences, d'ateliers. Et donc, il y a beaucoup de formateurs. Alors, je dirais une bêtise, mais il y a quelque chose comme plus d'une centaine de formateurs en France. Je dirais peut-être même 120, 130, voire je suis peut-être en dessous de ce qu'on est. Mais voilà, c'est pour montrer qu'on est quand même une grande équipe sur la France. Et ça s'étend aussi à tous les autres pays d'Europe. En fait, nous, on est rassemblés en France et dans la francophonie, donc Belgique et Suisse. Mais après, il y a des formateurs en Espagne, en Italie, enfin voilà, dans tous les pays d'Europe et dans vraiment beaucoup de pays à l'international.
Cette représentation, est-ce qu'elle agit aussi au sein de collectivités ou au sein de structures d'État, par exemple ?
C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des personnes qui sont formées à
l'éducation nationale, par exemple ? Est-ce qu'il y a cet aspect de communication non violente qui est partagé ?
Alors, je pense que dans l'éducation nationale, on n'en est pas encore au fait que la CNV soit totalement intégrée et acceptée, mais c'est en cours, et il y a du coup une association qui s'appelle Déclic CNV Éducation qui œuvre vraiment à ça, justement à faire que la CNV soit de plus en plus démocratisée dans le domaine de l'éducation nationale. Et donc, il y a quand même des inspecteurs, inspectrices qui connaissent et qui soutiennent la CNV, donc c'est assez encourageant. Et il y a de plus en plus de formations qui sont proposées dans le domaine de l'éducation, que ce soit petite enfance, pour les parents, dans des écoles primaires, collèges et lycées. Donc ça, c'est très encourageant parce que l'intention, en fait, c'est vraiment de se dire comment on va former les adultes qui vont soutenir et accompagner les enfants, parce que, en fait, les enfants, ils ont déjà ça en eux. En fait, ils savent exprimer leurs émotions, ils savent dire ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent pas. C'est très clair. Et l'intention, c'est justement de les accompagner à garder cette compétence et à être entourés d'adultes qui, eux-mêmes, savent aussi exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner les adultes pour que les futurs adultes que sont les enfants d'aujourd'hui arrivent à intégrer ces compétences de manière très simple et ne pas perdre leur capacité, justement, à exprimer leurs émotions, mais à leur apprendre à le faire d'une manière qui soit entendable dans une société, quoi.
L'émission touche à sa fin, Clémence. Peut-être autre chose à dire ?
Ce que j'avais envie d'ajouter, c'est que j'anime aussi des stages autour de la voix avec une amie qui s'appelle Oriane, qui est chanteuse et qui me tiennent beaucoup à cœur, où la CNV est vraiment en filigrane et il y a vraiment cette intention d'exploration, d'aller regarder en soi par le média de la voix. Et je trouve que c'est une association qui est très riche et on va donner ce stage en Ardèche du 10 au 13 novembre. Voilà, donc j'avais envie de partager aussi ça, qui m'anime beaucoup.
Toutes ces informations, on peut les trouver sur Internet, j'imagine.
Oui, alors elles sont principalement regroupées sur ma page Facebook qui s'appelle Clémence Latas Formation et aussi pour tout ce qui est CNV sur le site cnvformation.fr.
Clémence Latas, je te remercie d'être venue sur RDIWA pour nous présenter cette conférence CNV qui aura lieu ce vendredi 16 septembre 2022 à 17h45. Ça dure environ 2h30, ce module.
À peu près, 2h30. Ouais.
Bonne soirée.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Au revoir.